Seigneur, qu'au travers de ce que je vais pouvoir dire, ce soit essentiellement ta parole qui éclaire et dirige chacun d'entre nous, et que cette parole puisse être une source de paix et de réconfort. Amen. Le texte qui nous guidera se trouve dans le livre des Juges. C'est une parole que Dieu a adressée à Gédéon. Nous allons essayer de voir dans quelle mesure elle nous concerne. Va avec la force que tu as. Alors, quelques mots d'introduction. C'est la période de rentrée, c'est la période de reprise. Certains ont eu de bonnes vacances, ils ont pris de nouvelles habitudes et de retour à la maison et au travail, ils aimeraient prolonger ces nouvelles habitudes. Comment et avec quelle force ? D'autres ont passé un été moyen, voire un peu difficile, moins d'activité à l'église, moins de proches, peu de bons souvenirs à prolonger. Comment trouver la force de mieux s'organiser une autre fois ? D'autres retrouvent des difficultés dont ils auraient aimé avoir été débarrassés, des soucis de santé, de solitude, de travail, de force qui diminuent. Ils n'ont pas assez de changements ou les changements qu'ils vivent ne les enthousiasment pas. Comment vivre cette rentrée et avec quelle force ? Dans tous les cas, avec quelle force avancer ? Peut-on réellement aller de l'avant sans beaucoup de force ? Peut-on essayer de progresser quand on n'est pas talentueux ? On n'est pas physiquement Teddy Riner, c'est un champion de judo. On n'est pas Camille Lacour, qui est à la fois beau gosse et champion de natation. On n'est pas Claudia Schiffer, on n'est pas Zuckerberg, c'est le fondateur de Facebook. Comment aller de l'avant quand on se sent très moyen, voire diminué ? On n'a plus 20 ans, ça c'est pour certains d'entre nous. Ne serait-il pas plus sage et plus modeste de s'asseoir et d'attendre le temps qui passe ? Je vous fais remarquer que ça a d'ailleurs été l'attitude du fils prodigue lorsqu'il s'est retrouvé au fond du trou. À quoi bon ? Et finalement, il s'est relevé pour retourner vers son père. Se lever et marcher, oui, mais avec quelle force, quelle capacité ? Parmi les nombreux textes qui abordent cette question, celui que j'ai cité a retenu plus particulièrement mon attention et, pour tout dire, m'a été bien utile. Il se trouve donc dans le livre des Juges, au chapitre 6, au verset 14. C'est l'Éternel qui parle à Gédéon, « Va avec la force que tu as ». Alors, le contexte immédiat de cette phrase se trouve dans le début du livre, et en particulier dans le début du chapitre. Donc, le peuple est installé dans le territoire de Canaan depuis pas très longtemps. Josué est mort, et pour tout dire, tout est déstructuré. Le peuple s'est éloigné de la quête de Dieu qui avait guidé sa traversée du désert. Régulièrement, des voisins pas très arrangeants organisent des razzias avec des destructions et des pillages. Et de temps en temps, une personnalité émerge, fédère le peuple, arrive à restaurer la paix, et ce sont les juges. D'où le livre des juges. Au début du chapitre 6, le peuple d'Israël est à nouveau appauvri, régulièrement attaqué et pillé. Gédéon mène son activité d'agriculteur un peu en cachette pour pas se faire trop dérober ce qu'il arrive à cultiver. Et c'est là que Dieu se révèle à lui et l'appelle à sa grande surprise. Et ses premiers mots vis-à-vis de Dieu, au verset 13, expriment son découragement et sa plainte sur le fait que Dieu semble les avoir abandonnés. Vient alors au verset 14 l'ordre de Dieu, va avec la force que tu as. La réponse de Gédéon, on ne va pas la détailler, c'est que d'emblée et de façon prolongée, il cherche à se défausser. Et ça prendra tout un temps avant que finalement il se laisse convaincre. Cette parole de Dieu à Gédéon nous interpelle si toutefois elle nous concerne. Elle peut nous parler et même nous parler de la marche quotidienne. Alors pourquoi est-ce qu'elle pourrait éventuellement ne pas nous concerner ? C'est parce que cette parole a été adressée dans un temps extrêmement différent du nôtre. La Bible n'existait quasiment pas. On ne voit pas Gédéon lire la Bible. Peut-être existait-il un peu ou beaucoup du Pentateuque, qu'on ne sait pas bien. Donc pas grand-chose d'écrit. Et quand même il y aurait eu des écrits, pas grand-chose de détaillé sur le message que nous connaissons aujourd'hui. Il était esquissé, ébauché. Pour nous, la situation est bien différente et objectivement extrêmement privilégiée. Notre contexte, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile pleinement révélée. La bonne nouvelle a été clarifiée, magnifiée et réalisée par la venue de Jésus-Christ, homme et Dieu. Les éléments du message qui avaient été distillés tout au long de la période de l'Ancien Testament ont cristallisé pour devenir en quelque sorte un diamant éclatant. L'invitation adressée à Abraham « Lève-toi et marche » est devenue beaucoup plus précise pour nous. En effet, la mort salvatrice de Jésus nous libère des paralysies du péché. La résurrection nous place dans une nouvelle vie d'homme debout. Et l'attente de son retour nous propose une feuille de route avec les yeux au-delà de l'horizon terrestre, ce qui est d'actualité aujourd'hui. Pour notre quotidien, Jésus lui-même a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 30. Nous sommes donc réellement privilégiés. La scène que nous avons partagée est aussi un symbole qu'il a voulu pour nous rappeler la réalité de cette présence. À cette étape fondamentale et fondatrice s'est ajoutée la rédaction du Nouveau Testament, la multiplication des Bibles, la validation des canons, et donc non seulement nous avons le souvenir de la venue de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, nous avons sa présence, mais en plus, nous avons des textes pour nous guider. Nous sommes très privilégiés. Cette transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament est de fait une étape majeure. Et il convient de voir si cette parole adressée à Gédéon nous concerne encore. De nos jours, très schématiquement et en caricaturant beaucoup, je dirais que plusieurs attitudes sont possibles. Certains chrétiens diront « Vivons une vie de victoire, notre Dieu est grand, allons de miracle en miracle en surfant sur la vague de sa grâce. Oublions tout, peu importe nos forces. » D'autres à l'opposé diront « À quoi bon ? Je ne suis pas capable, voire j'ai fait quelques mauvaises expériences. » Il y a quelques illusions là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je suis sûr d'échapper au châtiment. Et tant pis pour le reste, je suis trop petit. La question qu'on va essayer de voir d'abord dans le Nouveau Testament, c'est qu'en est-il de nos forces pour marcher ? Avons-nous des arguments dans la parole de Dieu qui nous poussent à penser que nous devons aller de l'avant avec nos forces ? Existe-t-il plusieurs textes convergents qui nous poussent à exploiter au mieux les ressources limitées que Dieu nous a données. Est-ce que ces mêmes textes et d'autres nous poussent à entreprendre, à faire des efforts, à agir? Quelles sont ces forces qui sont mises à notre disposition? Voyons cette histoire de la permanence du message dans le Nouveau Testament. Nous avons donc été interpellés par le livre des Juges. J'aurais pu retenir beaucoup de textes, j'en ai extrait quelques-uns. Tout d'abord, la parabole des talents. Pour ceux qui ne se souviennent pas, trois serviteurs ont reçu de leur maître des sommes différentes. Et leur maître leur a demandé de les faire fructifier. Il s'en va, il disparaît et il les laisse agir. Donc le trait par rapport à notre situation est forcé. Plus tard, le texte dit même, beaucoup plus tard, il revient et leur fait rendre compte. Et il juge chacun sur ce qu'il a fait avec ce qu'il avait reçu. Il juge chacun sur ce qu'il a fait avec ce qu'il avait reçu. Comment a-t-il utilisé? Comment a-t-il fait fructifier? La morale de cette histoire, c'est que chacun de nous est invité à prendre des initiatives et à faire le mieux possible avec ses moyens, qu'ils soient petits, moyens ou grands. Le reproche qui est fait au serviteur qui n'a rien fait n'est pas qu'il a fait moins que les autres, mais qu'il n'a rien fait du tout, qu'il n'a pas exploité les moyens que le maître lui avait donnés. Celui qui a reçu plus et fait plus n'est pas honoré plus. Chacun est honoré, je dirais, au prorata de son apport relatif. Autre texte qu'on peut évoquer sur ce sujet, la parabole des 10 vierges et des lampes. Je sais qu'elle est souvent utilisée pour parler du Saint-Esprit. Mais elle me semble pertinente dans le contexte qui nous occupe. En quelques mots, 10 jeunes filles d'honneur, donc c'était un grand mariage, étaient supposées tenir une lampe allumée lors de l'arrivée des mariés pour la fête du soir. 5 d'entre elles ont calculé leur affaire, ont dit attention, donc elles ont pris des réserves d'huile. De nos jours, une batterie supplémentaire pour allumer l'iPhone. Bon. Elles ont pris des réserves. Et 5 autres sont venues les mains dans les poches. Elles ne se sont pas investies dans ce projet. Et donc, elles n'avaient pas de réserve, elles avaient juste leur lampe allumée. Je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de briquet. La noce a pris beaucoup, beaucoup de retard. Et à force d'attendre, elles se sont toutes assoupies. Au moment clé, les mariés arrivent, les 5 dilettantes se retrouvent fort démunies parce qu'elles n'ont plus d'huile. Alors que les 5 sages ont pu déployer leur programme, elles avaient leurs réserves, elles ont rechargé leurs lampes et tout a été bien pour elles. Ainsi, elles ont participé à la noce, alors que les autres, sans réserve, sans initiative, se sont retrouvées exclues. Troisième texte, la multiplication des pains. Alors, je sais qu'il y a probablement, ou quasi certainement, 2 multiplications des pains. Et si vous cherchez bien, vous en trouverez aussi une dans l'Ancien Testament. Il y en a une en particulier qui a la particularité d'être citée dans les 4 évangiles. Ce qui est, vous le savez, une rareté. Souvent, les choses sont citées dans Matthieu, Marc et Luc, et pas dans Jean. Et là, on parle de multiplication des pains dans les 4 évangiles, ce qui, à mon sens, donne plus d'importance à ce texte. Matthieu 14, versets 16 à 18, Jésus leur répondit, les disciples avaient dit, il y a trop de foule, renvoie-les, qu'ils aillent manger. Jésus leur répondit, il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur vous-même à manger. Remuez-vous. Faites le boulot. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus leur répond, apportez-les-moi. Et ensuite se déroule la multiplication des pains. Les disciples ont apporté le peu qu'ils avaient, ridiculement peu, et le Seigneur l'a utilisé. On retrouve donc ici clairement trois idées. Les disciples doivent agir. Les disciples doivent compter quelles sont leurs ressources et leurs réserves. Ils doivent enfin apporter tout cela au Seigneur qui saura les aider pour développer au mieux l'activité. Avec ses moyens très faibles et dramatiquement ridicules, Jésus intervient, multiplie, nourrit une grande ville, une grande foule. Il a souhaité la petite contribution de ses disciples pour faire une grande œuvre. Il aurait très bien pu transformer des pierres en pain, mais il ne l'a pas voulu. Souvenez-vous de la tentation, même le diable sait que Jésus aurait pu transformer des pierres en pain. Autre texte du Nouveau Testament, Marc chapitre 12, nous décrit Jésus dans le temple. Jésus est dans le temple et il devait y avoir des vases ouverts, contrairement à nos réceptacles fermés pour les offrandes. Jésus regarde combien chacun donne. Et il voit, donc il nous est dit, Jésus s'assit en face des troncs à offrandes du temple et il regardait comment les gens y déposaient de l'argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arriva et mit deux petites pièces de cuivre d'une valeur de quelques centimes. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité, cette veuve pauvre a mis plus dans le tronc que tous les autres. Car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin, mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait et tout ce dont elle avait besoin pour vivre. » Là encore, Jésus valorise une contribution, même modeste. Il est plus sensible à l'implication personnelle qu'à la valeur financière du don. Donc, voilà quelques situations dans les évangiles qui font écho à la situation de Gédéon qui dit « j'ai pas de grande force » et le Seigneur lui dit « va avec la force que tu as ». Un peu plus loin dans les actes et dans les épîtres, on trouve ce commentaire de Paul à propos de son propre ministère qui, ayant quitté Athènes, arrive à Corinthe et il dit « Je suis arrivé dans une grande faiblesse. » Il était beaucoup moins en forme à Corinthe qu'à Athènes, mais néanmoins, le Seigneur a utilisé cette faiblesse pour favoriser la naissance d'Église dont on a la trace, puisqu'il nous reste les épîtres aux Corinthiens. Nous en venons à l'Église, justement. L'Église est présentée dans le Nouveau Testament comme l'épouse. Dieu a choisi d'avoir besoin de l'Église. On pourrait presque dire, Dieu a pris le risque d'utiliser l'Église dans son plan de salut. Et si vous regardez l'histoire de l'Église, bon, on est impressionné par le choix de Dieu. À propos de la vie dans l'Église, Paul, en Romains 12, prêche pour la diversité et la complémentarité des ministères, que chacun apporte sa contribution. Donc Romains 12, verset 3, « À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Appréciez à leur juste mesure vos moyens modestes. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ, et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Et après, il détaille les dons. Si l'un de vous a le don de transmettre, qu'il transmette, le don de donner, qu'il donne, le don de servir, qu'il serve, le don d'enseigner, qu'il enseigne, le don d'encourager, qu'il encourage, et celui qui a le don dirigé, qu'il le fasse avec soin. Enfin, que celui qui a le don d'aider les malheureux le fasse avec joie. » Et ce texte a un écho dans l'épître de Jacques, Jacques 1, versets 21 à 25, « C'est pourquoi rejetez tout ce qui salit, tous les excès dus à la méchanceté, accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Ne vous faites pas d'illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole, mettez-la réellement en pratique. » Il faudrait ajouter à cela de nombreuses citations à propos du travail, mais le temps nous manque. Le travail est un thème qui revient régulièrement dans le Nouveau Testament, schématiquement deux idées. Premièrement, une prolongation de ce que Dieu a créé, parce que Dieu a d'emblée donné du travail à l'homme dans le Jardin d'Éden, même si le travail au début n'était pas pénible. Ce qui a changé après la chute, ce n'est pas le travail, c'est la pénibilité du travail. Donc, ce travail et cette notion de œuvrer pour survivre est largement confirmée. Et deuxième notion, le travail dans l'œuvre du Seigneur. Donc, ces deux notions sont complémentaires. Si on se résume, le Nouveau Testament prolonge l'invitation à l'action et à la mise en œuvre de nos moyens et de nos capacités, aussi modeste soit-il. En un mot, comptons les bienfaits de Dieu et utilisons au mieux les forces qu'il nous donne. Quelques considérations un peu plus détaillées à propos de nos forces. Essayons de les décrire brièvement. Nos forces sont de plusieurs natures et elles correspondent en fait à toute une palette. On va prendre l'image de la palette de couleurs, on y reviendra dans la conclusion. Le mot force ne peut pas et ne doit pas être limité aux capacités physiques ou aux ressources financières. Il faut à l'évidence, et dans le prolongement de nombreux textes, y voir les capacités manuelles ou intellectuelles, les capacités artistiques, les dons particuliers pour le service de l'œuvre du Seigneur. Un exemple, les descriptions de la mise en place du tabernacle dans le désert, puis les descriptions de la construction du temple à Jérusalem illustrent, décrivent avec presque plaisir toute la complémentarité des métiers. T'iras chercher ceux-ci qui feront cela, t'iras chercher les tisserands, ceux qui décorent, ceux qui font des bronzes. Enfin, il y a une description de tout un corps social où chacun amène sa pierre à l'édifice. On retrouve cette notion de complémentarité, de contribution respective, et on comprend mieux l'insistance et l'emphase avec laquelle Jacques, dans son épître, bannit les considérations de classe sociale. Qu'il n'y ait pas d'acception de personne parmi vous, nous sommes complémentaires dans l'Église et idéalement, nous devrions être complémentaires dans la société. Un commentaire sur les dimensions de nos forces. On aimerait en avoir plus. La parole de Jésus, de Dieu, de nouveau, va avec les forces que tu as. Alors revenons à l'histoire de Gédéon. Dans l'épisode que nous avons évoqué en introduction, Dieu dit à Gédéon que grâce à son aide, les forces de Gédéon vont être suffisantes. Donc il va lui donner une première tâche, puis une deuxième tâche. Donc un peu plus loin, dans le livre des Judes, l'histoire de Gédéon nous est présenté avec plus de détails et il doit à ce moment-là défendre son peuple contre une nouvelle attaque. Et dans ce cas, et ça mérite d'être médité, Dieu prend l'initiative de diminuer les forces. Quelque part, c'est comme si certains à la rentrée se sentent moins vaillants qu'il y a un an ou cinq ans. Et le message, c'est que Dieu peut encore faire de grandes choses, peut-être même avec moins de force. Donc lisons dans Juges, chapitre 7, verset 1 à 4. Tout le matin, Gédéon, dit Yerubbaal, se mit en route avec ses troupes et ils allèrent camper près de la source de Haron. Donc il part en guerre parce qu'ils sont sous la menace d'une grosse attaque. Le camp manianite se trouvait plus au nord dans la plaine, du côté de la plaine de Morée. Le Seigneur dit à Gédéon, « Tes troupes sont trop nombreuses pour que je leur accorde la victoire sur les Madianites. Les Israélites se vanteraient d'avoir vaincu par leur propre force et s'attribueraient ainsi une gloire qui me revient. Tu vas donc annoncer ceci devant tes troupes, que tous ceux qui tremblent de peur s'éloignent du mont Galaad et retournent chez eux. 22 000 d'entre eux s'en retournèrent, il en resta 10 000. Mais le Seigneur dit à Gédéon, « Les troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent, et là, je ferai un tri pour toi. » Il n'y a pas de message de toujours plus. Il n'y a pas de message que des troupes plus nombreuses, ça irait beaucoup mieux. Il n'y a pas de message selon lequel l'accumulation serait une panacée. Et quand on cherche bien, dans l'autre sens, on ne trouve pas vraiment d'épisode où par miracle seraient apparus des chars et des cavaliers. C'est un peu un fantasme des bandes dessinées, mais pas seulement des bandes dessinées d'ailleurs. La seule histoire qui s'en approche est une vision du serviteur d'Élisée dans 2 Rois 6, 15 à 17. Ils étaient très mal engagés, l'armée syrienne menaçait de les balayer complètement, et pour être rassuré, le Seigneur a accordé une vision au serviteur où il a vu les armées célestes. Mais les armées célestes n'ont pas combattu. La suite de l'épisode, c'est que le prophète a mystifié l'armée syrienne, qui a été faite prisonnière, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de quête systématique du volume et de la quantité. Autre aspect en ce qui concerne les forces. Un mot sur les forces qui viennent des autres, de notre entourage. De nouveau, pour des raisons de temps, je ne dirai rien des vertus de la vie en couple. C'est largement développé dans les textes. Par contre, je m'arrêterai un peu plus longtemps sur les vertus de l'amitié, de la camaraderie et du compagnonnage dans le service. Il y a des textes qui les mettent en valeur de façon remarquable. Et donc, c'est important, en gardant à l'esprit, que dans une église, on n'est pas tous amis, mais qu'on peut avoir quelques amis ou quelques compagnons dans le service. Sur ce sujet, citons Élie. Dans 1 Roi 19, Élie, qui a fait de grandes choses, a un coup de blues après coup. Il est déprimé, il part au mont Horeb. Seigneur, j'en ai assez, prends ma vie, c'est plus possible. Je suis resté, moi, tout seul. Et c'est à ce moment-là que Dieu choisit de lui révéler ses intentions vis-à-vis d'Élisée et qu'ensuite, dans 2 Rois, on voit les interactions entre Élie et Élisée. Élie a retrouvé quelques forces dans le compagnonnage avec Élisée. Alors, le compagnonnage peut être pour des choses relativement simples. Et j'ai eu à cœur de vous citer l'histoire d'Élisée et l'huile de la veuve. Une pauvre veuve n'avait plus rien et il se trouvait qu'Élisée, de temps en temps, logeait chez elle. Et il lui a dit, rassemble un maximum de récipients, va chez tes voisins, tes voisines, tes copains, tes copines, emprunte-leur des récipients. Et la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire la multiplication de l'huile, a été au prorata du nombre de récipients qu'elle avait pu récolter. Donc ses relations avec son entourage ont été pour elle une source de force, puisque à l'arrivée, elle a reçu d'autant plus d'huile que ses voisins lui avaient prêté des récipients. L'histoire ne nous dit pas si elle a partagé. J'espère que ça sera mieux pour l'humeur après. Un mot, il nous faut quand même avancer pour attirer votre attention sur tout le ministère de Luc auprès de l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, Luc le cite, compagnon très fidèle. Et s'il n'y avait pas eu cette interaction, nous n'aurions pas pu bénéficier de l'évangile de Luc, des actes des apôtres, et peut-être Luc a-t-il de temps en temps fait le script pour les épîtres. Donc, nos forces, même modestes, peuvent être utiles. Notre interaction avec notre entourage peut contribuer à les renforcer. Ouvrons les yeux sur ceux qui nous entourent. Maintenant, un point important, la présence du Seigneur. Il faut lui donner une place particulière. Nous avons vu qu'il nous invite à mettre sur la table nos petites forces pour agir lui. Cette présence est une conséquence et un bénéfice direct de la résurrection. C'est un privilège du temps de l'Église. Il est bon de se remémorer la description conviviale de cette présence qui est faite dans Apocalypse 3, verset 20. « Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. » Et en ce qui concerne cette présence, il y a de nouveau deux volets. Parfois, elle est évidente. Dieu se fait sentir dans la lecture de sa parole ou dans un temps de prière. Il peut, et c'est une de ses promesses, se faire sentir tout particulièrement dans les rassemblements en Église. Les croyants sont invités à se fréquenter les uns les autres, car c'est de nature à renouveler nos forces. Cette bénédiction particulière dépasse largement les imperfections et les défauts qui ont pu marquer l'histoire de l'Église au travers des siècles. Cette présence peut aussi, par certains aspects, être réelle alors même qu'elle n'est pas évidente. Et il faut rester en éveil pour la discerner. Et pour illustrer ce point, on peut citer deux textes. Tout d'abord, les pèlerins d'Emmaüs, qui quand même ont marché une heure ou deux à côté de Jésus, l'ont écouté et ne l'ont pas reconnu. Et ce n'est qu'au moment où Jésus a rompu le pain que leurs yeux se sont ouverts. Autre texte, la description du jugement dernier dans Matthieu 25, où les justes s'étonnent, car Jésus leur dit « Vous avez fait ci et ça pour moi », et au moment de leur action, ils n'ont pas du tout discerné la présence du Seigneur, ce n'est que dans l'éternité qu'ils ont eu la révélation après coup de ce qui s'était passé. Il est temps de conclure. Je vous propose une conclusion qui peut-être ne s'adresse pas à tout le monde. Vous allez me dire que ce n'est pas bien. Elle concerne ceux qui, en cette période de rentrée, n'ont pas assez de moyens financiers, pas assez de vie de couple, pas assez d'enfants, pas assez de travail, pas assez de temps, pas assez d'aisance en public, pas assez de diplômes, pas assez de force physique, pour certains même pas assez de périodes dans la journée sans douleur, pas assez de connaissances du grec ou de l'hébreu, ça c'est pour les théologiens. On peut même dire pas assez de mémoire, les défauts de la maladie très douloureuse, mais il faut quand même avoir une parole pour eux. En un mot, tous les Gédéons qui sont ici ce matin. La parole du Seigneur est là pour les encourager. Lève-toi, marche avec les forces que tu as. Le Seigneur te soutiendra. Il exploitera au mieux les 5 pains et les 2 poissons que tu amèneras dans ta relation avec lui. Ta contribution viendra s'articuler et compléter celle des autres. À quoi bon ? C'est le Seigneur qui s'occupe de ça pour faire un corps bien coordonné. D'une certaine manière, chaque modeste contribution constitue un puzzle qui devient un vitrail spirituel. Et pour une part, ce n'est que dans l'éternité que nous pourrons contempler l'ensemble de l'œuvre. Que le Seigneur bénisse chacun des Gédéons.